BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Si les professionnels de santé ont pu prendre le train des nouvelles technologies, eh bien c'est grâce à des entreprises qui les maîtrisent pour leur permettre d'améliorer leurs pratiques quotidiennes. Eh bien c'est ce que fait CGDIM Santé et ses nombreux services dont Maya, le logiciel de rendez-vous médical en ligne. Benoît Garibal, son directeur général, est sur le plateau de Check-up Santé. En ces temps compliqués, il est souvent difficile de trouver un médecin adapté à ses besoins, parfois urgents. Et bien c'est ce que propose la start-up Doctoomy et sa présidente fondatrice Amélie Litrovsky, qui est avec nous sur le plateau pour nous présenter son fameux algorithme. Enfin, elles sont 100 000 en France, ce sont les élèves infirmières. Pourtant, futur maillon indispensable de la chaîne santé, elles ne vivent pas une formation idéale, loin s'en faut. Pauline Bourdin, présidente de la FNESI, Fédération Nationale des Étudiants en Sciences Infirmiers, ne va pas nous rassurer. Check-up Santé, c'est parti. Benoît Garibal, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chez CGDIM donc depuis une bonne douzaine d'années, depuis 2011, et vous êtes directeur général donc de CGDIM Santé. CGDIM Santé, c'est une filiale de CGDIM. Juste quelques mots pour dire ce que fait historiquement CGDIM.
Alors, CGDIM, 7e éditeur de logiciels français, qui a plus de 50 ans. CGDIM Santé est une filiale du groupe CGDIM, relativement récente, construite à partir d'une position historique assez fondamentale de pionnier de la e-santé en France, avec plus de 100 000 professionnels de santé équipés de logiciels de gestion de cabinet.
Donc CGDIM, historiquement, donc c'est lancé depuis des années.
Fin des années 60, oui. Avec la promesse d'informatiser, on va dire, tout le secteur de la santé, d'accord, des professionnels de santé, de l'industrie pharmaceutique, et de la combinaison de l'ensemble des services possibles. À l'époque. Et donc CGDIM Santé
a été créé il y a trois ans,
en combinant à la fois nos solutions historiques, on fait notre force pionnier de la santé en France, et un effet start-up de Maya que nous avons lancé pour aussi proposer une alternative au marché, il n'y en a pas qu'une, afin d'engager des travaux d'innovation sur le parcours patient, l'innovation.
Donc c'est ce qui vous un petit peu différencie, c'est la spécificité de CGDIM Santé par rapport à la maison mère?
Tout à fait, c'est vraiment notre cœur de cible, ce sont les soignants.
D'accord. Donc, et vous, parmi, évidemment, vous proposez des services divers et variés avec CGDIM Santé, et en particulier donc le service que vous proposez, c'est donc cette plateforme de prise de rendez-vous en ligne.
Tout à
fait. C'est bien ça. Comment ça marche?
Alors, Maya, c'est une alternative, comme d'autres acteurs, à trouver un offreur de soins disponible en proximité. C'est également la possibilité d'initier une téléconsultation immédiate ou sur rendez-vous. Et progressivement, c'est également des services qu'on appelle de coordination, et donc permettre au patient d'échanger, dialoguer avec son soignant, et inversement, permettre au professionnel de santé de communiquer avec son patient ou sa communauté de pairs, autres soignants qui font partie de la communauté Maya.
D'accord,
et ils sont 25 000.
Et donc, vous profitez un petit peu de ces 100 000 professionnels de santé que vous équipez depuis longtemps, c'est ça?
Alors, l'idée, c'est évidemment de faire rayonner Maya sur ce parc d'utilisateurs de logiciels métiers. Et on y arrive, puisque petit à petit, on arrive à convaincre de l'unité de la solution.
C'est vrai que ce n'est pas facile, non, quand même, de trouver sa place à côté de certains mastodontes dont on ne tira pas le nom.
On n'en donnera pas les noms.
Oui.
Effectivement, c'est alors après, on reste humble par rapport à toutes les réalisations qui ont été faites depuis les 10 dernières années, on va dire. Néanmoins, on reste convaincu qu'il y a une vraie alternative à proposer, qu'un marché où il y a un seul acteur, c'est pas bon. Et donc, pouvoir se différencier à la fois par la spécificité de CGDIM, nous sommes un acteur français, nous sommes une société familiale, nous ne sommes pas drivés par des fonds d'investissement, nous avons des enjeux de souveraineté forts sur la donnée, et d'être capable d'accompagner dans la continuité de ce qu'on fait depuis 30 ans, avec la connaissance métier.
Oui, c'était une évolution naturelle.
Ça paraît totalement naturel, et on était vraiment appelé à ça.
Vous avez une véritable force de vente, non? Vous avez un réseau
Alors, on a 150 commerciaux sur le terrain, et on a un réseau territorial historique aussi de Cegedim, avec une cinquantaine d'agences en France, qui permet.
Ce qui vous différencie aussi peut-être, non, d'autres acteurs, donc cette approche territoriale.
Alors c'est même un axe très fort de notre stratégie, c'est d'être en proximité des professionnels de santé. Mmh. On reste convaincu que pouvoir avoir des services de personnes qui se déplacent dans les cabinets, ça reste un atout fort sur le terrain.
Oui, donc vous vous adressez évidemment aux médecins, mais pas seulement comme médecin.
Alors médecins, on en a à peu près 20 000, mais on a évidemment une couverture très large, les sages-femmes, les kinés, les infirmières, tout un tas de professions paramédicales comme les orthoptistes, les orthophonistes, les dentistes. Récemment, on a racheté la société Visiodent, qui en compte plus de 7 000, que ce soit en exercice libéral que en exercice dit de structure, maison de santé pluridisciplinaire ou centre de santé.
Oui, et votre... Évidemment que... L'idée, c'est peut-être d'améliorer votre notoriété, puisque vous n'êtes pas très très connu du grand public qui parfois a certains réflexes quand ils veulent prendre des rendez-vous. Donc l'idée, c'est peut-être d'augmenter votre...
Tout à fait. On est plutôt connu du monde des professionnels de santé, moins connu du monde des patients. Et donc petit à petit, on commence à rayonner.
Et on est ravis avec Checkup Santé de vous donner une vitrine.
Voilà, donc nous on est ravis de pouvoir dire qu'il y a des alternatives, que Maya est aussi une solution qui permet de trouver son médecin ou son praticien de façon fluide et sécurisée.
Et donc vous avez une certaine croissance au niveau
des adhésions. On est ravis d'accueillir, on est sur un trend à peu près de 12 000 nouveaux clients par an, et sur Maya en particulier, on est à plus de 600-700 nouveaux professionnels tous les mois. Qui sont contents d'expérimenter une alternative.
Quels sont vos liens avec mon espace santé qui vient de fêter ses 2 ans?
Alors, mon espace santé, comme de nombreux éditeurs, on est embarqué dans une initiative qui s'appelle le Ségur de la santé, qui impose, en fait, pour vulgariser, de brancher les logiciels métiers à ce qu'on appelle le dossier médical partagé, donc l'alimentation de tous les dossiers, tous les documents qui concernent le patient.
Ces examens complémentaires, son imagerie.
Voilà, l'ordonnance, etc. Et le patient peut y accéder via sa plateforme Mon Espace Santé. C'est activé par défaut, donc lui, après, doit faire le dernier kilomètre. Et ça permet aussi aux professionnels de santé, entre eux, de pouvoir accéder à de la donnée, enfin surtout des documents à ce stade, pas vraiment de la donnée, qui concerne un patient qui peut transiter dans son parcours.
Donc vous êtes connecté aussi bien avec Mon Espace Santé qu'avec le médecin dans son logiciel de gestion de...
Oui, en fait, les logiciels alimentent une grosse base de données qui s'appelle le DMP. Ouais. Ce DMP, il est consultable par les professionnels et consultable par le patient au travers de Mon Espace Santé.
Et question sécurité, vous avez un hébergeur, vous êtes hébergeur agréé, vous avez... de données de santé.
Là, oui, tout à fait. C'est une des particularités aussi du groupe Cegedim, c'est que nous sommes hébergeurs de données de santé. Nos data centers sont en France, et c'est un des points sur lequel on cherche aussi à se différencier et à en faire un point important. La donnée médicale, c'est une donnée fondamentale, et l'enjeu de la souveraineté de l'hébergement. Et ça, c'est un vrai parti pris sur lequel on se bat, qui n'est pas toujours le cas de d'autres acteurs. On pense que c'est un élément fondamental et différenciant dans la durée.
Juste un dernier mot, on parle beaucoup de cette taxe lapin. On parle beaucoup de cette taxe lapin. En tant que professionnel pratiquant, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Surtout un peu utopique.
Alors oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors la taxe lapin, c'est un gros sujet d'actualité, c'est un débat avant tout politique, qui repose sur des données qui sont relativement fausses. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de cas d'application qui peuvent être intéressants pour certains professionnels de santé qui le souhaitent. Nous, on se pliera à l'exercice en collaboration avec le ministère de la Santé. Néanmoins, le sujet de fond, c'est pas tant comment on instrumente ça au travers des plateformes, c'est comment on répond à cet enjeu qui concerne aussi des professionnels de santé qui ne sont pas équipés de plateforme, tout simplement, plus de 60%. Et il me semble quand même que fondamentalement, les professionnels de santé attendent et sont préoccupés par bien d'autres sujets d'innovation
évidemment
que cette monétisation à faible échelle.
Surtout compter sur l'esprit civique des patients. Merci beaucoup Benoît Garibal, directeur de Cegedim Santé, et la prise de plateforme de rendez-vous Maya. Voilà, on va à présent accueillir Amélie Litrovski qui dirige Doc2Me.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Amélie Litrovski, bonjour.
Bonjour Fabien Guez.
Alors, vous êtes président de Doctomy, que vous avez fondé en 2021. On peut vous considérer comme une start-up encore. Oui,
non. C'est agréable, merci, oui.
Alors, vous êtes diplômé de SCP Business School et vous avez un petit parcours aussi à l'étranger. Vous avez été à la fac à Monterrey, au Mexique.
Tout à fait, petit tour au Mexique, effectivement.
Ouais. Ça ouvre un peu l'esprit d'aller à l'étranger, non?
Oui, alors moi, j'ai fait une partie de mes études, pas que au Mexique, aussi en Espagne. Mm-hmm. Et effectivement, ça permet de se confronter à différentes cultures. Donc, c'est toujours intéressant.
Toujours, c'est vrai. Alors, comment vous est venue l'idée de proposer, donc de trouver un professionnel de santé, vous qui n'êtes pas issu quand même du milieu de la santé?
Non, effectivement. Généralement, c'est un peu comme tous les start-upers, c'est suite à une expérience personnelle où, lors de ma deuxième grossesse, j'ai été mal orientée et puis, du coup, mal accompagnée. Mais je vous rassure, tout s'est bien passé, donc
finalement,
c'est bien terminé. Mmh. Et donc, je me suis dit qu'à l'heure du digital, on devait être en capacité de pouvoir accompagner le patient dans son parcours de soins et de pouvoir l'orienter de manière assez personnalisée.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez créé une plateforme qui est destinée aux patients, c'est ça?
Exactement. Doctomy, c'est une plateforme qui accompagne le patient dans son parcours de soins. Aujourd'hui, c'est 1,3 million de patients sur la plateforme. Et donc, elle a vocation à l'accompagner, quelle que soit sa pathologie, donc plutôt maladie chronique, ou son moment de vie. Et donc, ça peut être une sortie d'hospitalisation, une perte d'autonomie, avec 3 services principaux. Le premier, c'est l'accès aux soins. Et donc, c'est la cartographie de l'ensemble des offres de soins disponibles sur le territoire du patient. Mmh. Le deuxième, c'est l'accès aux médicaments. Et donc, un patient qui sort d'une consultation, il a une prescription. Et donc là, on vient l'accompagner pour trouver la pharmacie qui a l'ensemble de sa prescription disponible tout de suite. Mmh. Et puis, le dernier service, c'est le suivi du patient dans le cadre de sa pathologie. Et donc, c'est s'assurer qu'il ait bien ses suivis annuels.
Et bon, on va les détailler l'un après l'autre. Voilà, c'est pas facile dans ce contexte un petit peu de pénurie de finalement trouver un professionnel de santé d'une manière générale et un médecin en particulier. C'est pas difficile?
Alors justement, pour les 67 millions de Français que nous sommes, on se rend compte qu'il y a une inégalité territoriale qui est très marquée. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% des consultations sur le milliard annuel qui sont dues à des maladies chroniques, la population augmente et il y a une inadéquation entre l'offre et la demande aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, le gros de notre travail, c'est vraiment de pouvoir cartographier l'ensemble des offres de soins disponibles sur un territoire. Donc ça va du médecin libéral en passant par l'hospitalier, mais c'est aussi les cabines de téléconsultation, les centres de santé sans rendez-vous et les camions qui viennent dans les zones de désert médical.
Donc ça veut dire qu'une grosse partie de votre travail, c'est d'aller solliciter les professionnels de santé.
Oui.
Qui s'inscrivent sur la plateforme.
Qui s'inscrivent sur la plateforme et pouvoir ensuite rajouter de la donnée qualifiante ou structurante.
Oui.
De type, est-ce que ce médecin généraliste fait de la médecine générale ou de la médecine anti-âge? Est-ce qu'il accepte de nouveaux patients? Est-ce que je peux le prendre comme médecin traitant? Un certain nombre de critères qui nous permettent, en fonction des besoins du patient, de pouvoir l'orienter sur son territoire.
D'accord. Donc, c'est votre algorithme
qui
permet de cibler au mieux la personne qui convient à ses besoins, c'est ça?
C'est effectivement, on prend le cahier des charges du patient et on vient l'orienter sur son territoire. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'accès aux soins sur un territoire donné. Mmh. On n'a pas la même offre de soins quand on est à Paris que quand on est en province.
Et l'idée, quoique, Paris devient le premier désert médical de France. Ouais.
Effectivement, puisque 70% du territoire est en désert médical. Et donc, l'intégralité de notre sujet, c'est de comprendre comment on peut accompagner de la même manière un patient, où qu'il soit sur le territoire, et en tout cas de lui offrir une solution annexe s'il ne peut pas consulter un professionnel de santé.
Donc les solutions, c'est le diriger vers un professionnel pour qu'il aille consulter à son cabinet. Ça peut être aussi même pour une visite à domicile?
Exactement, ça peut être une visite à domicile, une téléconsultation, un centre de santé. C'est finalement cartographier l'ensemble des offres pour pouvoir lui proposer une solution qui répondra à sa problématique.
Vous avez combien maintenant? Vous avez combien de professionnels de santé inscrits?
Aujourd'hui, sur la plateforme, il y en a plus de 50 000. Mais on
de professionnels de santé inscrits. C'est
de professionnels de santé
énorme.
Inscrits.
Ouais.
On a cartographié plus de 150 000 offres de soins sur l'intégralité du territoire.
Mm-hmm.
Et du coup, on a plus d'un million trois de patients qui viennent sur la plateforme.
1,3 million de patients.
Exactement.
Mm-hmm.
On couvre plus de 300
000. Qui viennent régulièrement ou alors une fois qu'ils ont trouvé leur professionnel de santé, ils vous laissent tomber?
Alors généralement, 52% d'entre eux reviennent dans les 3 mois pour du coup consommer un autre service, que ce soit l'accès aux médicaments ou le suivi dans leur pathologie.
D'accord, mais quand vous dites de trouver un médecin adapté à ses besoins avec le bon profil. Il y a des profils qui ne correspondent pas. Il y a des médecins que vous trouvez pas suffisamment aptes pour traiter des gens ou pas?
Alors, on n'est pas sur ces sujets-là. Le sujet sur lequel on est, c'est aujourd'hui répondre à l'accès aux soins. C'est finalement, j'ai un besoin en termes de santé, à qui je m'adresse, vers qui je m'oriente. Mm-hmm. C'est véritablement les sujets sur lesquels on est. Et ensuite, une fois que je sors de consultation, c'est comment je vais prendre mon traitement, puisqu'on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui ont une discontinuité dans leur traitement, et souvent parce qu'ils n'ont pas accès à leurs médicaments.
Et vous notez un espèce d'indice de satisfaction des patients vis-à-vis des professionnels de santé qu'ils ont trouvé ou pas, non?
Déjà aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des remarques, j'imagine, sur le site
Oui, mais alors le sujet sur lequel on est plus, c'est finalement d'accompagner le patient pour trouver un rendez-vous. Enfin, en tout cas, trouver un professionnel de santé avec qui il va pouvoir prendre rendez-vous. Et donc, l'indice de satisfaction du patient, c'est plutôt « Merci, vous m'avez aidé, parce que jusqu'à présent, j'étais sortie du parcours de soins parce que je ne trouvais pas de solution répondant à ma problématique. »
Donc, il y a un pourcentage quand même de patients satisfaits. Vous trouvez un médecin, un professionnel de santé avec quasiment tout le monde?
Alors, malheureusement, non. J'aimerais vous dire oui. C'est un peu l'ambition qu'on a. Mais aujourd'hui, on sait...
Ça progresse, évidemment.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des alternatives pour pouvoir apporter une réponse satisfaisante aux patients.
D'accord. Les tarifs sont les mêmes, en fait, que quand le patient trouve un médecin en consultation, quand il téléconsulte, ce sont les mêmes que pratiqués habituellement, avec ou sans endoctomie?
Oui, pour le coup, nous, aujourd'hui, on est plutôt un agrégateur où on vient finalement répertorier l'intégralité des offres. Et ensuite, effectivement, on peut annoncer les tarifs si on les connaît des professionnels de santé ou des plateformes. Mais après, c'est en fonction du rendez-vous.
Donc, ça ne fait pas partie de votre business model?
Non, aujourd'hui, ce n'est pas la façon dont on fonctionne. Aujourd'hui, le business model qu'on a, il est exclusivement B2B. La plateforme, elle est totalement gratuite pour le patient. Et on vient finalement déployer nos offres de services, donc nos briques accès aux soins, accès aux médicaments ou suivi du patient, en marque blanche chez nos clients. Et après, on a un modèle data qui est une autre source de monétisation pour nous.
Comment voyez-vous les 5 prochaines années?
En pleine croissance.
Ça, c'est l'espoir. Mais comment est-ce que vous allez changer peut-être certaines choses? Est-ce que votre expérience fait que vous allez peut-être modifier certaines choses ou pas?
Aujourd'hui,
dans un autre.
Effectivement, aujourd'hui, notre sujet, c'est de répondre à l'accès aux soins. Demain, c'est notamment de pouvoir contribuer à réduire l'errance thérapeutique ou l'errance de diagnostic. Comment on y arrive? Notamment en intégrant l'IA, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Doc2Me, c'est un vrai réceptacle de data, ce qui nous permet d'analyser les parcours patients et donc finalement d'identifier des patterns sur des patients déjà diagnostiqués et donc de pouvoir mettre en place des parcours et de placer des gens qui ne seraient pas diagnostiqués plus rapidement dans des parcours afin de mieux les soigner.
Eh bien, bravo pour ce que vous faites. Merci Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me. On va à présent accueillir Pauline Bourdin, présidente de la Fédération nationale des étudiants infirmiers.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Pauline Bourdin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous présidez la FNESI, qui est la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, en sciences infirmiers.
En sciences infirmières.
La FNESI, en sciences infirmières. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande majorité, une immense majorité d'infirmières par rapport aux infirmiers.
Oui, mais n'oublions pas les hommes.
Bien sûr, on ne va pas les oublier, mais pour être plus simple, on va parler de l'infirmière. Alors, vous êtes vous-même en quelle année d'études d'infirmière?
Alors, je suis en master en santé publique à Clermont-Ferrand.
Donc, vous avez fini vos études?
J'ai fini, je suis diplômée et je suis en poursuite d'études en santé publique.
D'accord, justement, combien d'années d'études pour être infirmière?
Il faut 3 ans pour être diplômée d'État infirmière. Et ensuite, on peut faire des poursuites d'études pour être infirmière de bloc opératoire, anesthésiste, puériculteur ou encore infirmière en pratique avancée.
D'accord, donc il y a 4 en fait après spécialisation, c'est ça, hein, c'est être une infirmière bloc opératoire.
Exactement,
God.
Oui.
L'anesthésie, la puériculture et puis les infirmières en pratique avancée.
Exactement, en plus des soins généraux.
En plus des soins généraux, bien sûr. Il y a combien d'étudiants infirmiers en France?
D'étudiants infirmiers, il y a environ 100 000 étudiants infirmiers en formation socle et environ 6 000 en spécialité.
D'accord, c'est beaucoup quand même.
Oui, beaucoup d'étudiants.
Il n'y a pas de pénurie?
Alors, on voit petit à petit un problème d'attractivité dans la formation. Avant, on était première formation... première formation demandée sur Parcoursup. Aujourd'hui, on est la deuxième. Mm-hmm. On voit également des places vacantes arriver dans notre formation. Ouais. Donc, on voit quand même un signal d'alarme dans l'attractivité de celle-ci.
Ouais. Alors, justement, c'est une chose que je savais, mais pas complètement. Est-ce que tous les élèves, les étudiants infirmiers ne finissent pas leur cursus?
Oui, il y a des arrêts de formation en cours de celle-ci. La première raison d'arrêt de la formation, c'est les conditions, et notamment les conditions de stage.
Donc c'est en fait une certaine dégradation de la formation?
Exactement. Dans les conditions de stage, on remarque beaucoup de maltraitance, de harcèlement, voire de violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, c'est la première cause d'abandon. On voit que chez les étudiants infirmiers, il y a une forte dégradation de la santé mentale.
Justement, parlons d'abord de la dégradation de la formation.
Oui.
Donc vous n'êtes pas vraiment satisfaite de votre formation.
Exactement.
D'accord. Et quelles sont les raisons?
Alors aujourd'hui principalement les conditions de stage, parce que c'est la principale raison d'arrêt de formation. Aujourd'hui on a 61,4% des étudiants qui déclarent avoir une santé mentale dégradée depuis leur entrée en formation, et un étudiant sur six qui a déjà pensé au suicide pendant sa formation. Donc d'accord, c'est important qu'on prenne en charge ce problème et qu'on améliore les conditions de stage dans la formation.
Vous dites qu'il n'y a pas assez d'enseignants, c'est ça, non?
Alors, on voit aussi petit à petit des places vacantes dans les formateurs, mais c'est surtout la plus grande problématique avec l'augmentation des quotas, parce que comme on n'a plus assez de professionnels infirmiers, il y a eu une augmentation des quotas en formation.
Sans augmentation parallèle.
Sans augmentation, par exemple, des lieux de stage, où on remarque de plus en plus de problématiques, c'est-à-dire que tous les étudiants n'ont pas forcément de stage, donc on a des procédures de mise en stage dégradées, avec parfois des stages qui vont se passer l'été, des étudiants qui ont peur à chaque stage de ne pas avoir de terrain de stage et possiblement redoubler. C'est ce qui s'est passé pour des étudiants de Brest.
Et parfois, on est obligé de, ce qui est hallucinant, obligé de redoubler.
Alors,
il n'y a pas assez de postes.
Pas encore, mais à Brest, des étudiants nous ont contactés en nous disant que c'était une des solutions qui était envisagée. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas possible pour les étudiants de redoubler une année. À côté de ça, on a une précarité assez importante dans la formation. C'est la troisième cause d'arrêt de la formation, parce que les étudiants n'ont plus suffisamment de ressources pour poursuivre leurs études. Mmh. Donc c'est à ne pas négliger.
D'accord. Et beaucoup vont à l'étranger ou pas?
Après les études?
Ou même certaines, est-ce que certaines vont faire des études d'infirmier à l'étranger? Oui,
ça arrive également qu'il y ait des étudiants qui se dirigent vers l'étranger.
Oui, vous disiez que vous avez un certain nombre d'heures d'enseignement en France. C'est la même chose en Europe?
Alors, en Europe, c'est justement une des raisons pour lesquelles on a une réforme de la formation. Normalement, en Europe, c'est 4600 heures. Aujourd'hui, on n'en a pas officiellement 4600, on en a 4200 dans la formation.
Ça fait quand même 400 moins, quand même.
Mais parce qu'aujourd'hui, on n'intègre pas les heures de travail personnel, d'intégration des cours. Donc, c'est pour ça qu'on n'atteint pas les heures, mais sinon, on les atteindrait largement. Avec le travail personnel, comme dans l'enseignement supérieur en général, c'est intégré. Ouais. On arrive à 5100 heures.
Et vous dites aussi que vous n'avez pas accès aux universités et à leurs services. C'est le cas, non?
Oui, l'intégration universitaire de la formation est encore incomplète aujourd'hui. C'est ce sur quoi on travaille pour la réforme de la formation. Ça pose problème notamment du côté des droits étudiants. Tous les étudiants ont accès, par exemple, au restaurant universitaire, à la culture, au sport, aux services de santé étudiants. Aujourd'hui, c'est un problème, et c'est même un problème pour la démocratie étudiante, parce qu'on n'a pas tous et toutes accès aux droits de vote.
Alors, évidemment, vous l'avez cité. Donc, une autre raison importante aussi de cette dégradation, c'est le harcèlement que vous subissez, un harcèlement moral, physique, voire sexuel.
Exactement. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est, comme on l'a pu le dire, la première raison d'abandon. Il y a une omerta à l'hôpital qui est assez importante, qui fait que les...
Mais les langues se délient quand même un peu, non? Par de MeToo hospitalier.
Exactement, les langues se délient petit à petit, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va changer les conditions de la formation? Pas forcément, parce que les étudiants ont toujours peur de témoigner, toujours peur de signaler ce qui se passe en stage, parce que derrière, il peut y avoir des répercussions, un stage invalidé, des répercussions dans la formation avec des sanctions. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui nous contactent pour des sanctions abusives, où on accompagne les étudiants pour revenir sur des décisions qui n'ont pas été justes pour les étudiants.
D'accord, donc ça ne vous empêche pas de vous battre et de citer à chaque fois donc les cas de harcèlement, aussi bien physique, moral que...
Alors, on dénonce ce qu'on peut, mais tous les étudiants ne nous contactent pas. Des étudiants ont peur de signaler, ont peur du retentissement, donc c'est important de pouvoir libérer la parole.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je propose, c'est à ceux qui nous écoutent d'aller sur votre site internet. Vous avez fait donc 50 propositions pour améliorer votre condition d'étudiant infirmière. Merci beaucoup, Pauline Bourdin. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.